15e jour. L'autre Christ. Construire la nouvelle cité de l'amour. On comprend fort bien l'impatience, l'angoisse, les désirs inquiets de ceux dont l'âme naturellement chrétienne ne peut se résigner à l'injustice personnelle et sociale dont le cœur humain est capable. Tant de siècles de coexistence entre les hommes et tant de haine encore. Tant de destruction, tant de fanatisme, accumulé dans le regard de ceux qui ne veulent point voir et dans le cœur de ceux qui ne veulent point aimer. Les biens de la terre répartis entre quelques-uns, les biens de la culture enfermés dans les cénacles, et au dehors la faim de pain et de savoir, et les vies humaines, pourtant saintes, puisque venant de Dieu, traitées comme de simples choses, comme des éléments d'un calcul statistique. Je comprends et je partage cette impatience qui me fait lever les yeux vers le Christ, ce Christ qui nous invite sans cesse à mettre en pratique ce commandement nouveau de l'amour. Toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés au cours de notre vie sont autant de messages divins qui nous demandent une réponse d'amour, un don de nous-mêmes aux autres. Avec l'ascension de Jésus au ciel, notre humanité entre dans la gloire. Les anges invitent les apôtres à ne plus scruter les nuages. Les pieds sur terre, ils sont appelés à rendre présent le Christ parmi les hommes, mais aussi à le découvrir dans les autres. Les voici un peu désemparés. Comment faire? Quelle tentation que d'attendre le retour de Jésus, lui qui peut tout. Il est allé leur préparer une place. Il reviendra juger les vivants et les morts. En y pensant, les souvenirs leur reviennent. C'est alors, peut-être, qu'affleurent à leur mémoire des paroles mystérieuses sur le jugement. Oui, Jésus venait de sortir du temple de Jérusalem et, comme il s'en éloignait, il l'avait rejoint. Ils avaient voulu lui faire admirer la construction sainte. Il en avait prophétisé l'invraisemblable destruction. Ils avaient marché ensemble. Arrivé au mont des Oliviers, Jésus s'était assis et il s'était regroupé autour de lui. Pierre, Jacques, Jean, André, les plus proches du Maître, voulaient savoir quel sera le signe que cela va s'accomplir. Au loin, on apercevait l'endroit d'où Jésus avait pleuré sur Jérusalem, avant de chasser les vendeurs du temple, puis d'y guérir des aveugles et des boiteux, et de les captiver tous par son enseignement. Les voici donc à nouveau suspendus à ses lèvres. Jésus avait commencé à parler sans qu'aucun d'eux n'osât l'interrompre. La bonne nouvelle devait être proclamée au monde entier. Les paroles de Jésus ne passeraient point. Il y aurait de faux Christ. Il s'était dit qu'il ne voulait pas en être, bien décidé à faire fructifier leur talent dans une veille amoureuse. Enfin, au jour du jugement, le Fils de l'homme reviendrait dans sa gloire. L'attention des disciples se fait plus intense. Au loin s'évanouit le braiement d'un âne. Une vieille femme passe tenant un rameau d'olivier fraîchement cueilli. On devine là-bas des pèlerins qui s'éloignent. On n'entend bientôt plus que le gazouillis des moineaux. Jésus parle de lui-même et des hommes. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. » Chacun des disciples s'identifie forcément à ses justes, sans toutefois comprendre. Jésus anticipe la question qui leur brûle les lèvres. « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier, de venir te voir. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il faut reconnaître dans nos frères les hommes le Christ qui vient à notre rencontre. Nous ne pourrons pas dire qu'il y ait des réalités bonnes, nobles, voire indifférentes, exclusivement profanes, dès lors que le Verbe de Dieu a fixé sa demeure parmi les enfants des hommes. Dès lors qu'il a eu faim et soif, qu'il a travaillé de ses mains, qu'il a connu l'amitié et l'obéissance, qu'il a éprouvé la douleur et subi la mort. Car chez le Christ, Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Reconnaître le Christ dans les autres, c'est prendre ses responsabilités dans sa famille, à l'université, au travail, dans la société où l'on vit. Contribuer si possible à ce que le chômage diminue. Chercher des solutions pour que les personnes âgées ne soient pas seules. Donner un toit à qui n'en a pas. Nourrir et vêtir le Christ, c'est tout cela. Un homme ou une société qui demeure passif devant les tribulations ou les injustices, qui ne s'efforce pas de les soulager, n'est pas à la mesure de l'amour du cœur du Christ. Les chrétiens, tout en conservant leur liberté d'étudier et de mettre en œuvre différentes solutions en fonction d'un pluralisme légitime, doivent avoir en commun ce même désir de servir l'humanité. Sinon, leur christianisme ne sera pas la parole et la vie de Jésus. Ce sera un déguisement, une mascarade devant Dieu et devant les hommes. Conscient que le royaume du Christ n'est pas de ce monde, le chrétien est un constructeur actif de son époque, sans nostalgie. Il ressent comme un appel toutes les nouvelles du monde. Il sait qu'il a son rôle à jouer dans une œuvre humaine et divine à la fois, sans s'enfermer dans un égoïsme familial ou professionnel. La liberté religieuse, l'amour de l'étranger, la promotion de la famille, la culture de la vie, le véritable épanouissement des hommes et des femmes dans leur égalité fondamentale et la richesse de leurs différences essentielles, le respect des anciens, la solidarité avec les pauvres, là où l'on habite et sur les autres continents, la défense de l'environnement, le libre choix de l'école, la juste organisation des événements sportifs. Contre tout fondamentalisme, les chrétiens sont appelés à la tâche sérieuse de rendre la société temporelle plus humaine et plus juste. En vivant chrétiennement parmi nos égaux, une vie ordinaire mais conforme à notre foi, nous serons le Christ présent parmi les hommes. Cette sollicitude active pour les besoins matériels et spirituels des autres, c'est la pratique de la justice transfigurée par la charité du Christ. Sous la protection de la Mère du Bel Amour, nous transfigurerons la vie quotidienne. Souffrant avec Jean-Baptiste, dans la joie d'un cœur libre comme ceux des bergers et des mages, nous travaillerons avec Joseph de notre mieux, sous le regard de Jésus. Celui-ci nous parle comme à la Samaritaine et présente au Père dans l'Eucharistie notre effort pour faire sa volonté. Nous imiterons sa compassion devant tant de gens courbés sous le poids de la vie. Participant à l'amour miséricordieux de Béthanie, autour de la table de la famille humaine, notre amour de la liberté grandira dans une demande pleine de foi, comme celle de la Syrophénicienne. Guéris-nous comme les pécheresses aimantes, Seigneur, nous nous relèverons confiants, comme des enfants. Petits âmes, nous lutterons pour la vérité, et nous jouirons de la liberté d'un amour sans rivage, celui du règne de l'humble agneau de Dieu, qui veut construire avec nous, c'est Christ, la nouvelle cité de l'amour. C'est la foi dans le Christ, mort et ressuscité, présent à tous les moments de notre vie, et en chacun d'entre eux, qui illumine nos consciences en nous invitant à participer de toutes nos forces aux vicissitudes et aux problèmes de l'histoire humaine. Dans cette histoire, qui a commencé avec la création du monde et qui s'achèvera avec la consommation des siècles, le chrétien n'est pas un apatride. C'est un citoyen de la cité des hommes, avec une âme pleine du désir de Dieu, dont il commence à entrevoir l'amour dès cette étape temporelle, et dans lequel il reconnaît la fin à laquelle nous sommes appelés, nous tous qui vivons sur terre. Ô Dieu, Père de miséricorde, par l'intercession du bienheureux José Maria, donne-nous de servir les autres à chaque instant, éclairant les chemins de la terre par la lumière de ton esprit d'amour. Merci, ô Jésus, d'avoir voulu devenir un homme parfait, au cœur aimant et très aimable, et qui aime jusqu'à la mort et qui souffre, qui se remplit de joie et de douleur, qui s'enthousiasme pour les chemins des hommes et nous montre celui qui mène au ciel, qui se soumet héroïque à son devoir et agit avec miséricorde, qui veille sur les pauvres et sur les riches, qui prend soin des pécheurs et des justes. Merci. Merci, mon Jésus, et donne-nous un cœur à la mesure du tien. L'assurance d'être enfant de Dieu nous remplit d'une espérance véritable, celle qui naît de l'amour que l'Esprit-Saint répand dans nos cœurs. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, notre espérance, apprenez-nous à aimer avec le cœur de Jésus.